Et 13 à Québec. Oh, ça arrête sec demain.
Ouais, ouais, ben c'était tout là.
C'était de la grande radio. Ce que vous venez d'entendre là, c'était vraiment de la grande grande radio.
J'avais juste besoin du bout. Comment on parlait de l'histoire.
Non, c'est parce que j'avais envie de demander aux gens. Il y a Martin qui m'a écrit, c'est la tempête. Fait que là, puis il dit qu'ils vendent beaucoup. Okay. Donc, j'avais envie de demander aux gens, ça a l'air de quoi chez vous? Okay, question qu'on soit capable de dresser un peu le portrait dans la région. Parce que nous autres, présentement, dans Montcalm, il y a de la neige un peu, il y a un peu de vent, mais c'est pas cataclysmique, là. Mais ça a l'air de quoi dans Bellechasse? Ça a l'air de quoi dans Lobinière, en Beauce? Il y a des gens qui nous écoutent en Mauricie, dans votre coin, parce qu'en plus, en Mauricie, d'habitude, ça nous permet de savoir ce qui s'en vient vers chez nous, là. Oui. On le sait une heure ou deux à l'avance, là.
Surtout que là, en théorie, ça partait de Montréal.
C'est ça. Fait que 25-226, dans votre coin, il neige-tu, il vente-tu ou il fait beau? Je veux juste savoir ça pour qu'on soit capable de, en fonction de vos secteurs respectifs.
Pour te donner une idée, sur la 20 en direction est, au moment où on se parle, juste après Taniata, là, la 20, il y a une voie sur deux qui est fermée.
Ah ouais, déjà?
Ouais.
Vers l'est, donc vers Charlevoix, là.
Non, la 20, c'est sur la rive sud.
La 20 vers l'est, c'est vers...
C'est ça.
OK, fait que 25-226, dans votre secteur, ça a l'air de quoi? Et à partir du moment où ma question est posée, tu peux faire jouer ta chanson qui finit sec.
C'est là, là?
Oui. François Thérien.
C'est pour moi, ça?
Ouais, c'est ça. Oui. Ça, c'est pour toi.
La prochaine fois, il faudrait que tu chantes le reste.
Oui, bien sûr, oui.
J'ai mandaté François Thérien. Puis en fait, non, je ne t'ai pas mandaté, c'est toi qui me l'as proposé, mais on s'est rejoint assez rapidement cette semaine parce que François m'a dit, on travaillait ensemble sur l'émission Deux Hommes en Onde, François m'a dit, moi, je tripe sur l'histoire, je suis un passionné d'histoire et j'aimerais ça dresser des portraits, soit de personnalités, soit d'événements qui ont marqué la ville de Québec ou la région de Québec. Moi, écoute, je suis tombé des nues. J'étais bien content parce que je voulais que ça fasse partie de notre émission, de faire un peu d'histoire. Et il se trouve que cette semaine, François, il a servi sur un plateau d'argent la famille Garon, donc la famille du défunt maire de Lévis, aussi député de Lévis, Jean Garon, a demandé qu'un tronçon du boulevard Kennedy, le tronçon lévisien du boulevard Kennedy, soit renommé en son nom, soit renommé le boulevard Jean Garon. Je dis le tronçon lévisien parce que Kennedy, ça se rend jusqu'aux États-Unis. Là. Mm-hmm. Ça fait quand même vraiment une longue trotte.
En fait, c'est la 173, dans le fond. C'est pas l'autoroute, là, c'est la route qui passe par tous les villages, qui part de Lévis, Pintendre, Saint-Henri, puis qui s'en va en Beauce, puis qui s'en va jusqu'à la mégalopole de Jackman dans le Maine.
C'est que là, François, lui, il a... là où le gaz est moins cher.
Et voilà.
Parce que c'est une mégalopole.
Et, voilà.
Et là, François a saisi à Balouba et a dit « Parfait, ben sais-tu quoi? Je vais te faire le portrait de Jean Garon. »
Oui, Jean Garon, qui, comme tu l'as dit, qui a été député de Lévis, qui a été maire de Lévis, qu'on connaît beaucoup, là, ceux qui se rappellent de ce monsieur-là, le ministre de l'Agriculture sous René Lévesque, lors du premier mandat du PQ. En fait, il y a fait les deux premiers mandats du PQ comme ministre de l'Agriculture, puis ça a été un ministre de l'Agriculture marquant.
Oui.
C'est rare qu'on se souvienne d'un ministre de l'Agriculture. À part Jean Garon, en connaissez-vous un autre? Moi, j'en connais pas, là.
C'est pas lui qui avait été impliqué dans un dossier de dézonage de terre agricole,
ouais, ben qui a beaucoup protégé le territoire.
C'est ça. La loi sur la protection du territoire agricole, c'est lui.
C'est ça.
En fait, ce qui se passait dans les années 60-70, le Québec se développait à vitesse grand V. Puis là, c'était un petit peu anarchique, là, évidemment. Là, t'allais empiéter les villes, allais empiéter sur des terrains agricoles autour. Alors là, à un moment donné, les gouvernements se sont dit « Ouais, là, faudrait mettre de l'ordre là-dedans. Là. Oui, le développement, mais il faut que ça se fasse de façon ordonnée. » Puis les libéraux de Robert Bourassa, c'était un peu penché sur le problème, mais ils savaient pas par quel bout prendre ce dit problème. Le PQ arrive au pouvoir, puis René Lévesque savait pas plus que Robert Bourassa « Comment je fais ça? » Qui je nomme à l'agriculture. Puis le président de l'UPA de l'époque lui avait dit, là, fais pas l'erreur de nommer un agriculteur ou un agronome. Ça prend quelqu'un qui sait compter, qui est bon avec les chiffres, genre un économiste. Puis avocat, si possible aussi, parce que la loi agricole à l'époque, c'était un fouillis total.
Il se trouve que Jean Garon a étudié pas mal les deux.
Et voilà. Il est avocat de formation, puis il a étudié en économie.
Bon.
Fait que René Lévesque, il dit, j'ai mon homme. Mais quand il a demandé à Jean Garon, lui s'attendait à peu près à tout, sauf à l'agriculture.
C'est ça.
Fait que là, il a fait comme, ah, ben, M. Lévesque, moi, je connais rien là-dedans. Puis là, ben, René Lévesque a sorti le violon, puis finalement, il a convaincu Jean Garon, et ça a été un succès total. Ça a été un excellent ministre de l'Agriculture, mais aussi, surtout dans le cas qui nous occupe, ça a été un excellent député. Lui, il a été député provincial de Lévis de 1976 jusqu'en 98, sans discontinuer.
C'est ça. La première élection, donc, du Parti québécois.
C'est ça. Lui, il s'est présenté dans Lévis en 76, l'année de l'élection du Parti québécois, puis il a été de toutes les élections jusqu'à celle de 94. En 98, il a décidé de pas se représenter. Ça, on reviendra là-dessus. Mais il a été réélu à chaque fois. Puis, n'oubliez pas, là, évidemment, en 76 ou 81, le PQ a fait deux mandats. Mais après ça, c'est les libéraux qui ont rentré. Puis, je pense que c'est la deuxième élection qui est en 89. Ils ont passé la gratte, les libéraux, là. Mais Jean Garon restait tout le temps. D'ailleurs, dans sa biographie, M. Garon, qui s'appelle « Pour tout vous dire », il parle à un moment donné de l'effet Garon. Les journalistes appelaient ça l'effet Garon parce que dans Lévis, il réussissait toujours à avoir plus de votes que l'ensemble de votes que le PQ avait à l'échelle nationale.
OK, que la moyenne nationale.
Puis il a publié un tableau qui est très évocateur. En 76, il y avait 7 % de plus que ce que le PQ avait à l'échelle nationale. En 81, 10 %. En 89, 26 %.
Hey, monsieur.
Puis en 94, 27 %. 94, c'est la dernière fois qu'il s'est présenté. Puis après ça, ben là, ça a été d'autres. Ça a été Linda Goupil qui lui a succédé.
Oui, c'est vrai.
En 98,
oui.
C'est elle qui a été élue pour le Parti québécois.
Mais c'est pas en 98 qu'après ça, lui, il est devenu.
Lui est devenu
maire.
En fait, lui, là, pour finir mon histoire, en 98, Mme Goupil avait 6 % de plus que le PQ à l'échelle nationale. Mais l'élection d'avant, M. Garon avait 27 %. Donc, ça vous montre à quel point il était populaire.
Ah, c'est un petit peu fait délire sur des résidus de la popularité de Jean Garon. Puis là, que la couleur, parce que la couleur était bien installée dans Lévis, là, c'était un château fort péquiste depuis des années, y pensez-vous. Puis c'est après, de mémoire, là, je veux pas dire n'importe quoi, mais c'est après Mme Goupil que là, tout d'un coup, ça s'est mis à virer un peu aux mains de l'ADQ en 2007,
l'élection de 2007. Là,
ça, c'est la grosse élection.
C'est ça. En fait, lui, Mme Goupil a été élue en 98, mais elle a été battue par la suite. Je pense que c'était Carole Théberge qui était députée de Lévis.
Oui, libérale. T'as raison.
Puis après ça, elle s'est fait battre. Mais il n'y a pas de péquistes, à ma connaissance, là, depuis Linda Goupil, il n'y a pas de péquistes qui ont été élus là. Mais il faut dire que la physionomie du comté a changé beaucoup. Là. Mais Jean Garon, il n'y a personne qui a accoté, si vous me permettez l'expression, les scores qu'il faisait à Lévis, il était partout. Puis pourquoi il était comme ça, pourquoi il était populaire comme ça, c'est que cet homme-là, à la base, c'était un militant. Lui, là, quand il s'est lancé en politique, là, il n'avait pas l'idée de devenir député, encore moins ministre. Lui, il est devenu indépendantiste dans les années 50, quand il était jeune étudiant. Lui, il est né en 1938. Là, alors, il avait 16, 17, 18 ans. Il avait milité pour le changement de nom de l'hôtel Reine-Élisabeth à Montréal. Il était en train de construire cet hôtel-là.
Oui, oui, oui.
Puis les gens, les Québécois, disaient ben, « Pourquoi on l'appelait la Reine-Élisabeth? Pourquoi on ne l'appellerait pas le château Maisonneuve? » du nom du fondateur de Montréal.
Ben ouais.
Dans le fond, un peu comme le château Frontenac ici. On a le château Frontenac à Québec, mais il semble qu'on devrait avoir un château qui représente quelqu'un d'important au Québec. Puis pour Montréal, c'est pas mal Maisonneuve. Puis il avait récolté 250 000 signatures.
Et
c'était
monsieur...
Jean Drapeau qui avait parti ça, qui n'était pas encore maire de Montréal à l'époque. Là. C'est lui qui avait parti ça. Puis il avait 250 000 signatures. Puis c'était le Canadien national, le CN, qui construisait ça. Puis elle n'avait pas bronché. Non, non, ça s'appelle la Reine Élisabeth, puis ça va rester la Reine Élisabeth. Puis lui, Jean Garon, il s'était dit, si à 250 000 personnes, on n'est pas capable de faire changer le nom d'un hôtel, comment voulez-vous que les Québécois obtiennent quelque chose dans la Confédération canadienne? Lui, c'était ça. Fait qu'à partir de ce moment-là...
Ça, c'est le déclic.
Oui. Lui, il est devenu indépendantiste à ce moment-là. Il a milité pour le RIN, le Rassemblement pour l'Indépendance nationale. Il y a eu une scission. Lui, là, dans le fond, lui puis d'autres, ils ont développé le membership du parti, du RIN. En fait, c'est plus un mouvement dans l'Est du Québec. Puis de la façon dont il faisait, lui, il se promenait partout. Il était voyageur de commerce, comme on appelle dans ce temps-là.
Oui.
Là. Fait que lui, il en profitait. Il allait au magasin général d'un village X, puis jasait avec le tenancier, puis lui disait, « Y a-tu des indépendantistes dans le bout? » Puis, puis lui, il dit, « Ben oui,
il y a... » Je l'imagine tellement,
ben,
en plus.
Ben, c'est ça. Ben lui, il dit, « Ouais, il y a un tel dans le troisième rang, puis il y a peut-être un autre tel dans l'autre rang. » Fait que lui, il allait voir ce monde-là. puis il leur parlait, il disait, bon, ben, il expliquait quel était le, c'était quoi le RIN, pourquoi il militait. Fait qu'il faisait signer des cartes de membres. Puis il demandait, ben, toi, t'es indépendantiste, y en a-tu d'autres dans le bout? Fait que lui, il dit, ben oui, il y a un tel, mon voisin, il y a un tel autre dans l'autre rang. Fait que là, il faisait un exécutif dans cette région-là. Fait qu'il y avait des exécutifs du RIN partout. C'est comme ça qu'il l'a bâti.
Je me l'imagine tellement bien parce que, écoute, je sais pas si c'est 98, là, mais ça doit être en 1998 quand il est devenu maire de Lévis. J'ai le souvenir, j'étais pas vieux, là, mais j'ai le souvenir, à un moment donné, ça sonne à la porte. Moi, je viens de Lévis. Ça sonne à la porte chez nous. J'ouvre la porte et c'est Jean Garon. Moi, à ce moment-là, je le sais pas, mais après, je le connais pas. J'étais pas vieux. Mais mes parents, après ça, m'en ont parlé. Mais là, puis lui faisait son porte-à-porte pour essayer de se faire élire. Puis il va aller voir si le monde était pour voter pour lui, puis ça. Puis j'avais aussi, puis par la suite, j'ai réalisé que à toutes les fois qu'il y avait des politiciens qui venaient chez nous, mes parents, d'habitude, n'étaient pas trop jasants. Ils sont pas vraiment du genre à avoir envie de jaser que le politicien. Ils disaient « Oui, non, merci, bye, on est en train de souper, on s'en va. » Lui, quand il était venu, il avait jasé un bon bout de temps avec mon père. Fouille-moi pourquoi,
il y avait une
mais
connexion.
Mon père avait passé, j'ai le souvenir qu'il avait passé plus de temps dans le cadre de porte avec ce monsieur-là, qui apparaissait comme un bon bougre, là, tu sais, mais ben, qui était un monsieur super brillant. Mais il y avait une espèce de bouille sympathique. Mm. Il était accessible.
Exact. Il n'y a pas l'air d'un bonhomme qui se prenait pour un autre comme certains politiciens.
C'est ça. Il n'était pas genre monsieur cravate, un peu pincé que sa mallette. C'est quand tu me dis, il a fondé le mouvement dans l'Est en allant au magasin général, puis en allant à taverne, va voir qui, OK, je vais voir qui en premier. J'ai aucune difficulté à me l'imaginer.
Puis c'est drôle parce que tu racontes cette histoire-là, puis dans son autobiographie, il y a où j'ai vu ça sur Internet, là, je me souviens pas, il raconte que après le référendum de 80, que le PQ avait perdu, là, il fallait qu'il s'en aille en élection, là, parce que ça allait faire 4 ans bientôt. Puis là, la question, c'était, on fait-tu des élections à l'automne ou on attend au printemps? Fait qu'il y avait un caucus spécial pour ça. Puis Jean Garon, lui, avait dit, à un moment donné, ben, il dit, écoutez, M. Lévesque, il dit, moi, là, je parle aux gens, puis les gens me disent qu'on est mieux à attendre au printemps. Fait que René Lévesque a regardé Jean Garon. Il dit, ouais. Il dit, Garon, lui, il parle à tout le monde, il parle avec le monde. S'il dit ça, c'est que c'est ça. Élection au printemps. Séance élevée. Bingo. Ça avait fini de même. Mais c'est ça. Jean Garon, là, tu comptes l'histoire là, quand il est venu chez vous, là. Mais c'est ça. Jean Garon, il parlait avec le monde, puis il prenait le temps. Si ça prenait 5 minutes, ça prenait 5 minutes. Si ça prenait 10 minutes, ça prenait 10 minutes. Si ça en prenait plus, il faisait. Puis, il y avait un rapprochement avec les gens. D'ailleurs, quand on regarde ces taux d'élection, là, c'est pas pour rien.
Mais
là,
aussi à la mairie, tu sais. En ce moment, à la mairie de Lévis, t'as un Gilles Lehouillier qui a été élu avec autour de 95%. Tu sais, c'était la grosse affaire, puis il n'y a pas d'opposition. Les gens veulent pas aller se frotter contre Gilles Lehouillier parce qu'ils savent qu'il est apprécié. Mais je reconnais un peu de ce côté-là dans Gilles Lehouillier que Jean Garon avait. Sais-tu quand? Cette semaine, quand il y a eu un gros feu à Saint-Romuald, là, il y avait des garages, puis ça allait exploser, puis bref, il y a une vingtaine de PME qui ont perdu de l'équipement, qui ont perdu leur local. Le lendemain matin, Gilles Lehouillier était là sur le terrain pour aller regarder, jaser avec le monde, puis OK, vous, c'est quoi votre compagnie, vous faites quoi, puis là, vous allez avoir besoin de quoi, relocaliser, OK. Il était là pour jaser avec le monde. Puis après ça, puis le surlendemain, quelque chose comme ça, il disait, bah, regardez, là, on va trouver un moyen, on va les aider pour les relocaliser. Le besoin des gens qui étaient là, c'est surtout relocaliser. On va les relocaliser, tu sais. Je reconnais un peu de ça. J'ai l'impression que les gens de Lévis s'y ont accordé à ce point-là leur confiance à Jean Garon pendant toutes ces années-là. C'est que, il était là. Il était accessible. Ils écoutaient, ce qui est une chose qui se perd en politique de nos jours.
Et puis c'est drôle parce qu'il en parle de ça. Il dit le militantisme en politique, c'est important. D'ailleurs, lui, là, avant qu'il s'est fait tirer l'oreille pour se présenter.
Il voulait pas. Ah non?
D'ailleurs, le mouvement souverainiste et indépendantiste a monté tranquillement pour culminer avec la création du Parti québécois en 1968. Lui, il était là au Congrès de Fondation. Puis l'élection suivante, en 70, il n'a pas voulu se présenter. Là, il préparait ses examens du barreau, puis il dit, moi, je vais aider sur le terrain, là, mais je me présente pas. Puis finalement, en 73, il a accepté, mais pas dans Lévis, dans Charlevoix. Parce que l'exécutif du comté de Charlevoix, parce que lui, il se promenait partout, fait que tout le monde le connaissait. Puis eux autres se sont dit, Garon, lui, ce serait un bon candidat. Il vient souvent ici, les gens le connaissent. Fait qu'il avait dit oui. Sauf que dans Charlevoix, c'était un ministre libéral qui était là depuis Mathusalem pratiquement, qui était imbattable. D'ailleurs, Jean Garon le savait. Il dit, j'avais dit à ma femme, là, il dit, si à un moment donné, je m'énerve, puis je te dis, j'ai une chance de gagner, là, crois-moi pas, là.
Ramène-moi sur terre.
C'est sûr, je perds.
Réveille-moi.
Oui, c'est ça. Je peux pas gagner cette élection-là. Puis effectivement, il avait été battu. Puis là, en 76, à Lévis, il s'est présenté. Mais encore là, il était pas sûr de le faire. Quand il était approché, ben il restait dans le comté maintenant, là. Alors, il s'est dit, ouais, OK, je suis dans le comté, les gens me connaissent, go, allons-y. Mais c'était pas, là, hyper enthousiaste. Oui, j'y vais, go. Mais il avait embrassé le défi, si vous me permettez l'expression, pour se faire élire. On le connaît surtout comme ministre de l'Agriculture, mais il a été ministre de l'Éducation aussi. Parce que quand le PQ est revenu au pouvoir après sa traversée du désert dans l'opposition à la fin des années 80, début des années 90, en 94, ils ont été réélus. Jacques Parizeau était le chef. Il l'a nommé à l'Éducation. Puis là encore, là, Jean Garon, à l'Éducation, oupala, qu'est-ce que je vais faire là? Mais encore là, il a parlé avec les gens, puis là, il a vu qu'il y avait des défis, puis il s'est dit, bon, ben, je vais attaquer ces défis-là. Sauf que M. Parizeau, ça n'a pas été très, très long. Il a perdu le référendum de 95, puis c'est Lucien Bouchard qui lui a succédé. Puis les deux, là, Jean Garon puis Lucien Bouchard, ça s'entendait pas beaucoup. Jean Garon, c'était un indépendantiste pur et dur. Alors lui, il voulait être son chef, il voulait être au service d'un chef qui l'était.
Puis
Lucien Bouchard ne l'était pas assez à son goût. Puis je pense que les deux s'aimaient plus ou moins, là, parce que Lucien Bouchard, quand il est arrivé à la tête du PQ, il a fait un remaniement. Puis Jean Garon s'est ramassé simple député. Là. Il n'était plus ministre de rien.
Il l'a envoyé en
punition. Oui, c'est ça. Alors, Jean Garon raconte que, ben, quand j'ai vu ça, ben, j'ai dit, moi, je finis mon mandat, puis je ferai d'autres choses après. Puis c'est là qu'il est devenu maire de Lévis. Mais maire de Lévis, ça n'a pas été facile, parce que sa première élection, il a été élu en 98 avec un échevin. Alors
ouais,
là, il était minoritaire. Fait qu'il dit là, il dit, j'ai pas pu faire grand-chose. Les projets que j'avais, ben les échevins m'attendaient dans le détour.
Tu te fais dire non,
fait
c'est ça.
Il pouvait pas vraiment. En 2001, il a été réélu, mais là, cette fois-là, il était majoritaire. Là, il y avait des échevins avec lui. Alors là, il a pu avancer des projets. Il parle beaucoup du centre des congrès. Il dit, c'était dans mon programme,
ouais.
Mais c'est pas lui qui l'a conçu finalement.
Non, mais c'est vrai qu'à Lévis, on a tendance à dire que c'est un peu un héritage, parce que la volonté d'avoir un centre des congrès était né sous Jean Garon. Mmh.
Lui, ce qu'a dit Jean Garon, il dit, moi, mon but à Lévis, là, c'était que Lévis devienne le pôle économique de Chaudière-Appalaches.
C'est ça.
Il dit, Lévis puis Québec, ils disent pas la même chose. Oui, on peut collaborer, mais Lévis doit être le pôle de Chaudière-Appalaches qui est différent de ce qui se passe sur la Rive-Nord. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a une anecdote assez intéressante. Sa biographie a été écrite autour de 2012-2013. Puis il parle de Jean-Paul Lallier, puis il dit, ouais, il dit, monsieur Lallier, il dit, c'est un monsieur qui était parlable, c'était un grand démocrate, mais il était très centralisateur.
Ouais.
Il dit, je pense que je m'entendrais mieux avec Régis Labeaume, qui, oui, il tire fort pour la ville de Québec, mais il respecte Lévis. Je sais pas si M. Lehoulier a la même opinion, là. Mais il y a aussi beaucoup d'inimitié des partis politiques. N'oubliez pas, Jean-Paul Lallier, c'était un libéral. À l'époque, il avait été élu même ministre provincial. Régis Labeaume était davantage un péquiste. Alors, on le voit là, dans ses amitiés, là, on voit que la couleur de politique de la personne joue pour beaucoup souvent. Là.
On va conclure cette chronique, François, avec le commentaire d'une auditrice, si tu le veux bien.
Vas-y.
France écrit, « Comme je le croyais, M. Terrien fait un travail ultra précis et intéressant. Simple et clair, ça permet de tout comprendre. Merci pour ces interventions dominicales, parce que tu vas être avec nous à tous les dimanches.
Oh!
8h30. Pour nous dresser le portrait, comme tu viens de le faire avec Jean Garon, pour nous dresser le portrait des personnages, ou parfois ça va être des événements aussi.
Ouais, je suis ouvert aux suggestions. Si les auditeurs ont le goût d'entendre parler de quelqu'un ou quelque chose en particulier, là,
c'est passé à Québec. Ouais. Notre espèce de terrain de jeu, c'est quelqu'un ou quelque chose d'important dans l'histoire de la ville de Québec. On va s'amuser dans ces...
Lévis aussi, ça compte.
Lévis, comme on l'a vu, grande région. Ouais. Grande région. Merci, François. Vraiment fort. Bienvenue. Intéressant. Oui. François Terrien.
OK, là, tu chantes, là.
Oh oui. Ah oui, François, la suite. C'est une romance.
Que Québec se lève. Que Québec se lève.